RCF. Il est 7h30, voici tout de suite le journal de la rédaction. Il nous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Plus qu'un obstacle avant sa mise en service, le pass vaccinal devrait entrer en vigueur lundi prochain. Mais avant, le Conseil constitutionnel doit le valider aujourd'hui. C'est en tout cas la première échéance annoncée hier soir par le Premier ministre qui a détaillé le calendrier de l'allègement des restrictions sanitaires. Comme si on voyait enfin le bout du tunnel malgré les plus de 400 000 contaminations encore comptabilisées en 24 heures. Alors va-t-on retrouver prochainement notre vie d'avant? C'est ce qu'on verra dans ce journal. Et puis dans l'actualité également, de nouveaux abattages de volailles prévus dans le sud-ouest face à la progression de la grippe aviaire. On pourrait atteindre les 2,5 millions d'animaux abattus depuis fin novembre.
Avec exactement 9 jours de retard sur le calendrier initial, le pass vaccinal devrait donc entrer en vigueur lundi prochain pour les personnes âgées de 16 ans et plus.
Le Premier ministre l'a annoncé hier soir, mais encore faut-il obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel qui a été saisi par des parlementaires de l'opposition. Les sages doivent se prononcer aujourd'hui. Et s'ils valident la mesure du gouvernement, eh bien il faudra donc à partir de lundi avoir un schéma vaccinal complet pour accéder aux activités de loisirs, aux bars et restaurants, aux foires et salons ou encore aux transports interrégionaux. Les tests négatifs ne seront plus suffisants, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Une mesure dénoncée par Nathalie Théot, avocate et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme.
On fait en sorte de limiter de plus en plus les libertés des gens et surtout on habitue les personnes à devoir tout le temps être en position de devoir expliquer ce qu'on fait. Et on habitue les gens à ce que ça devienne normal. Il n'y a plus de réflexion quant à ce traçage et à cette perte de l'anonymat qui fait aussi partie de la démocratie.
Et en réponse, Jean Castex a précisé que le pass vaccinal pourrait être suspendu dans certains cas.
Si la pression épidémique et surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement, si nos services de réanimation ne voyaient plus arriver de nouveaux malades pendant plusieurs semaines, si nos hôpitaux n'étaient plus obligés de déprogrammer des soins, si la pression sanitaire redescendait au plus bas, alors nous serions amenés à lever le pass, tout en nous tenant évidemment prêts à le réactiver en cas de redémarrage.
Voilà, le Premier ministre qui a aussi indiqué que le pass vaccinal pourra être octroyé aux Français qui reçoivent une première dose d'ici le 15 février à deux conditions. Présenter un test négatif de moins de 24 heures et faire la deuxième dose un mois plus tard. Pour l'instant, 93% des adultes ont déjà reçu une première injection. Et puis c'est également à partir de lundi prochain que la dose de rappel sera ouverte à tous les adolescents de 12 à 17 ans. Mais elle ne sera pas obligatoire pour avoir un pass vaccinal valide.
Ça c'est donc pour la première date. Et ensuite, Clotilde, comment ça va se passer?
Eh bien, le Premier ministre a annoncé deux étapes au cours du mois de février, Magali Santulli.
D'abord, à partir du 2 février, ce sera la fin du masque obligatoire en extérieur, la fin de l'obligation des 3 jours minimum de télétravail et puis la fin des jauges dans les grands établissements accueillant un public assis comme les stades, même si dans ce cas, le port du masque restera obligatoire. Deuxième étape, le 16 février, avec une bonne nouvelle pour le milieu de la culture, les discothèques pourront rouvrir et les concerts debout seront de nouveau autorisés. On pourra aussi consommer dans les stades, les cinémas et les transports et consommer debout dans les bars.
Et puis après les vacances scolaires de février, le protocole sanitaire dans les écoles pourrait être allégé d'après Jean Castex, notamment concernant le port du masque et le nombre de tests à réaliser.
Alors tous ces allègements, Clotilde, est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le début de la fin ?
Dans son avis publié dans la soirée, le Conseil scientifique estime que la cinquième vague n'est pas terminée. Mais d'après le Premier ministre, cette vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas dans les régions où le variant avait frappé en premier, donc surtout en Île-de-France. Et les nombreuses contaminations enregistrées ces derniers jours pourraient aboutir à une sorte d'immunité collective, comme l'explique Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie à Strasbourg et membre du collectif du côté de la science.
Si tout le monde a été infecté et qu'il n'y a pas de réinfection possible parce que effectivement les gens sont suffisamment vaccinés, la réponse immunitaire a été bonne, on va normalement voir disparaître les cas de Omicron et c'est en ça où on va dire ça va devenir endémique. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas été infectés par Omicron parce qu'il en restait 3%, ben au bout d'un moment, en croisant d'autres personnes, ils vont finir par être infectés, mais ça va être que des cas locaux. Le virus, en fait, ne survit pas en dehors tout seul. Il ne se multiplie pas tout seul en dehors d'un corps ou d'un humain. Il a besoin d'un humain pour pouvoir se multiplier. Donc, si tout le monde, ou 80% de la population, ou 90% de la population a été infectée, il arrive un moment où, de toute façon, il n'y a plus personne à infecter. Dans les conditions où l'immunité induite par Omicron est suffisante et très bonne, et protectrice, et stérilisante, comme on dit, à ce moment-là, Omicron va disparaître et va circuler que sporadiquement.
Et malgré tout, Jean Castex l'a rappelé hein, hier soir, même atténué, ce virus n'a rien d'anodin, il ne s'agit pas d'une simple grippe.
Et en parlant de grippe, Clotilde, il y en a une autre qui inquiète, cette fois les éleveurs.
Et l'État projette de faire abattre préventivement plus d'un million de volailles, principalement des canards, à cause de la progression rapide de la grippe aviaire dans le sud-ouest. Les élevages de 226 communes des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques sont concernés. Il va falloir environ 3 semaines pour assainir la zone, d'après le ministère de l'Agriculture, parce qu'après l'abattage, le processus n'est pas terminé, comme l'explique François Lespard, secrétaire général de la FDSEA des Landes.
Quand l'abattage a été fait, il y a un certain temps d'attente, mais ensuite, très vite, il y a des nettoyages à faire des bâtiments, évacuer les fumiers, les traiter, mais c'est très 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 lourd. Il y a un niveau de nettoyage où on passe quasiment à la brosse à dents. Donc on change tous les équipements de ventilation dans les bâtiments qui ne sont pas nettoyables, donc à nouveau là, il y a de l'argent à mettre, et ensuite quand le nettoyage est fait, il y a un certain temps d'attente jugé par les autorités sanitaires et on peut commencer à repeupler. Mais simplement, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que les animaux, on ne programme pas les mises en place d'un claquement de doigts. En amont, il y a des couvoirs avec des poules, des cannes qui pondent, on fait éclore et ça, tout le monde n'est pas servi en même temps. Donc c'est tout cela qui est quand même un vrai sujet d'angoisse pour les éleveurs et également de projection pour l'avenir.
Voilà, c'est le 4e épisode de grippe aviaire qui touche la France depuis 2015. L'hiver passé, 3,5 millions de volailles ont été abattues. Dans le reste de l'actualité, Claude Guéant et 4 autres anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy vont être fixés sur leur sort en début d'après-midi dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Ils sont soupçonnés de favoritisme ou de détournement de fonds publics. On en parlait hier matin, l'Assemblée nationale a adopté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine et appelant le gouvernement français à en faire autant. Sans portée contraignante, le texte a été adopté à la quasi-unanimité à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin.
En revanche, c'est une ambiance glaciale qui est attendue aujourd'hui à Genève.
Les chefs de la diplomatie russe et américaine se retrouvent pour parler du cas ukrainien et d'une potentielle attaque de Moscou à Kiev. D'après Anthony Blinken, toute violation par la Russie de la souveraineté territoriale de l'Ukraine laisserait planer la menace d'une guerre totale. Le Kremlin dément toute volonté d'attaque mais demande des garanties pour que Kiev n'intègre pas l'OTAN. Timide reprise de l'immigration l'an dernier après une année 2020 marquée par une chute record des flux migratoires. 104 577 premières demandes d'asile ont été enregistrées, soit une hausse de 28% par rapport à 2020, d'après des chiffres du ministère de l'Intérieur. Au total, 54 000 personnes ont obtenu une protection de la France. À l'inverse, un peu moins de 17 000 étrangers en situation irrégulière ont quitté la France l'an dernier.
Et on termine justement, Clotilde, avec cette belle histoire qui s'est déroulée à Porte-les-Valences et dans la Drôme.
Et oui, une belle histoire qui nous est racontée par Timothée Rouvière.
Une histoire qui commence à la mi-décembre dans l'église. Le prêtre remarque la présence d'un jeune Afghan de 20 ans venu chercher un peu de chaleur. Alors devant la détresse de ce jeune réfugié prénommé Kassem, la solidarité s'organise. Dans un premier temps, il est logé au prieuré de Valence, puis dans 2 familles drômoises. C'est Pierre Fontaine, le responsable du service diaconie et soins, qui s'occupe de lui.
C'est un miracle de Noël, oui, mais je pense que c'est pas un miracle comme ça qui tombe du ciel, c'est un miracle parce que tous on a pu se serrer autour de Kassem et de lui dire, mais écoute, si ta volonté c'est de rester en France, eh ben reste-y et construis ta vie ici, quoi.
Alors avec l'aide de plusieurs paroissiens, il mène des démarches administratives pour rester en France. En un mois, il a déjà bien avancé. Il est officiellement enregistré comme demandeur d'asile et devrait obtenir un titre de séjour dans quelques semaines. Même Pierre Fontaine s'étonne de cette rapidité.
Eh bien, on a été surpris. Alors là, c'est, vous voyez comme quoi le tous, c'est-à-dire tous, même l'administration française, quand ça roule bien, eh ben écoutez, c'est tout au bénéfice de Kassem, donc c'est génial, quoi.
En parallèle, Kassem apprend le français. Il n'attend qu'une chose, être enfin reconnu par l'administration française pour démarrer sa vie dans ce pays qu'il a choisi.
Voilà pour ce reportage de Timothée Rouvière. Et puis du tennis pour finir, Gaël Monfils qui poursuit sa route à l'Open d'Australie. Il s'est qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire en 3-7 contre le Chilien Christian Garin.
Le journal de Clotilde Dumais tout de suite, c'est l'invité local de votre rédaction. Bon début de journée.